Studio Tamani, voici les informations en français.
Merci de votre constante fidélité au programme de Studio Tamani. Bonjour et bienvenue à cette édition matinale. À la une, l'examen du diplôme d'études fondamentales DF démarre ce lundi 2 juin. Il concerne 350 409 candidats, dont 233 qui vont composer au camp de réfugiés maliens de Mbeira en Mauritanie. S'agissant toujours du DF, trois centres ont été délocalisés dans la région de Badjangara à cause de l'insécurité. Les ministres de la Justice de l'AES ont décidé d'harmoniser et renforcer le système juridique et judiciaire des trois États. C'était à l'issue d'une rencontre de deux jours à Bamako. Juliette Koulibaly est à la présentation avec la complicité technique de Noum Djiri. Les épreuves écrites du diplôme d'études fondamentales débutent ce lundi 2 juin sur l'ensemble du territoire national et dans le camp des réfugiés de Mbeira en Mauritanie. Cette année, 350 409 candidats sont inscrits, dont 18 176 candidats libres. La Direction nationale de l'enseignement fondamental affirme que des mesures ont été mises en place pour assurer la transparence et l'équité de ces évaluations cruciales. Les détails avec Imrana Kilumaiga.
Les candidats aux épreuves écrites du diplôme d'études fondamentales DEF sont répartis entre 1842 centres d'examen sur l'ensemble du territoire national. 233 candidats composent au camp des réfugiés maliens à Mbeira en République islamique de Mauritanie. Un total de 173 767 filles participent à ce concours du DEF. Les autorités scolaires se sont engagées à garantir la fiabilité des résultats et le bon déroulement des épreuves. Selon la Direction nationale de l'enseignement fondamental, des équipes de surveillance et de mécanismes de contrôle rigoureux ont été mis en place pour veiller au respect des règles. Le Centre national des examens et concours de l'éducation avait annoncé au mois d'avril dernier des mesures pour la gestion de secrétariat et de correction des épreuves du DF 2025 et du BAC. Dans un courrier adressé au directeur d'académie, le centre a également critiqué le retard dans l'annonce des résultats. Afin de remédier à ce problème, après l'examen du DF 2025 du 2 au 4 juin, les résultats ont été fixés au 17 juin 2025.
La région de Badjangara compte 6675 candidats répartis dans 61 centres d'examen. Trois centres ont été délocalisés par les autorités scolaires régionales en raison de l'insécurité. Cependant, un centre a choisi de rester sur place selon la direction de l'Académie d'enseignement de Badjangara. Ses responsables regrettent un manque d'accompagnement des candidats délocalisés par les autorités scolaires. Lamine Soumaoro est le directeur adjoint de l'Académie d'enseignement de Badjangara. Il est au micro de notre correspondant Adama Djigiba.
Doukombo doit composer dans la ville de Badjangara, mais je tiens à préciser que Doukombo intègre aussi Gundaka. Il y a Idjelina et Benyuma Ayiré. Ça, c'est dans la commune de Dourou. Donc, il y avait aussi un autre centre. Ça, c'était Dobolo. Bon, Dobolo, finalement, a décidé de rester. Comme d'habitude, l'État accompagnait les candidats en déplacement. Mais bon, la toute dernière minute, pour des raisons budgétaires, alors l'État n'est pas entré en possession du financement. Alors, la situation va reposer essentiellement sur les collectivités.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. Dans un communiqué publié dimanche 1er juin 2025, l'état-major général des armées a indiqué que les zones de Boulkessi et Mondoro font l'objet d'une surveillance accrue suite à une attaque survenue dans cette zone. Au même moment, des incidents sécuritaires ont été signalés dans certaines localités du nord. Le point avec Moussa Aga Mahaha.
Ce dimanche 1er juin à Mondoro et Boulkessi, des opérations entreprises par les FAMA ont permis de neutraliser des colonnes de véhicules et de motos selon la note de l'armée malienne. La note ne précise pas les bilans mais affirme que des ratissages ont commencé aux environs de 5h30. À Gawo, trois individus armés dont deux hommes et une femme circulant en moto sont soupçonnés d'être à l'origine d'une série de braquages récents dans les quartiers de Djira. Leur mode d'opération consiste à forcer les victimes à transférer la totalité de leurs fonds via mobile monnaie sous la menace de leur confisquer leur téléphone. L'un de ces présumés auteurs a pu être identifié. Une enquête officielle est en cours pour retrouver ces deux complices toujours en fuite selon les sources locales. Toujours au nord, des hommes armés non identifiés ont fait irruption à Ansongo dans le quartier Tizimizi dans la nuit du samedi au dimanche. Selon des sources locales, ils étaient au nombre de 2 sur une moto à avoir fait des tirs de sommation pour disperser la foule et partir ensuite avec un nombre important d'animaux.
Autre actualité de ce journal, la rencontre de 2 jours des ministres en charge de la justice et des droits de l'homme de la Confédération des États du Sahel s'est achevée le 30 mai dernier. Elle visait à harmoniser et renforcer le système juridique et judiciaire de l'AIS. Au cours de cette réunion à laquelle ont également participé des experts des 3 pays membres, Burkina, Mali et Niger, de nombreuses recommandations ont été formulées afin d'atteindre ces objectifs. Nous en savons plus avec Issa Oumar Togola.
Lors de cette rencontre de Bamako, les ministres en charge de la justice des États du Sahel ont exprimé leur souhait de créer un cadre de concertation permanent pour pouvoir échanger sur des sujets d'intérêt commun. Ils ont surtout convenu de la mise en place d'une plateforme numérique de coopération judiciaire, de la création d'un fichier unique des personnes recherchées, poursuivies ou condamnées pour des crimes tels que le terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive, entre autres. Ils entendent aussi renforcer l'entraide judiciaire entre les 3 pays, l'extradition et le transfèrement des personnes privées de liberté. Mais pas que cela, ils ont convenu d'organiser des formations conjointes pour les acteurs judiciaires, de mutualiser les ressources techniques et renforcer la coopération en matière de renseignement, de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent, de la sécurisation des prisons et la gestion des détenus. Les ministres ambitionnent également de créer un centre régional de formation judiciaire, un centre de formation pénitentiaire de l'AIS et construire une prison de haute sécurité liée à la future Cour pénale sahélienne et des droits de l'homme. Il faut rappeler que cette rencontre a été précédée par des travaux d'experts qui ont permis d'identifier des pistes concrètes pour bâtir des institutions et pratiques communes dans l'espace AIS.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Un communiqué annonçant que la direction générale des douanes du Mali met en vente des véhicules et divers biens saisis est viral sur les réseaux sociaux. S'agit-il d'une arnaque ou d'un document authentique? Siadata Maïga a vérifié la situation pour nous.
La publication sur Facebook est légendée « Avis aux citoyens, vente aux enchères ». L'administration douanière organise une vente aux enchères des véhicules et des biens divers. Le communiqué précise que la vente aura lieu ce dimanche 8 juin 2025. Nous l'avons vérifié et trouvé que ce communiqué n'est pas authentique. La signature du directeur général des douanes sur le document semble être falsifiée, car les écritures de la partie de la signature sont superposées et n'ont pas la même police. Il y a également une incohérence entre la date mentionnée en haut du document, Bamako le 28 mai 2025, et celle en bas, Samakole, sans date. Amadou Sissé, le responsable de la communication de la Direction nationale des douanes du Mali, que nous avons joint au téléphone, dément également le document. En résumé, ce communiqué de vente aux enchères de la douane malienne est une escroquerie. Il n'émane pas de l'administration douanière malienne. C'est une méthode utilisée par des malfaiteurs pour tromper les internautes.
À présent, le résumé de l'actualité de la semaine dernière avec Sita Sidibé.
Le jeudi dernier, la ministre de la Santé et du Développement social a annoncé qu'elle souhaite recevoir toutes les dénonciations, de préférence avec les noms, des heures et des structures identifiées, surtout manquement du personnel sanitaire. Cette sortie du médecin colonel Assa Bayalo Touré intervient quelques jours après la publication d'une vidéo par une proche d'un patient. Autre sujet, c'est l'examen blanc qui se déroule dans les écoles privées. La pratique soulève des interrogations quant à leur absence dans les établissements publics. Des spécialistes de l'éducation préconise de l'étendre à l'ensemble du système éducatif, en particulier dans le secteur public. Terminons par cette décision qui interdit la vente improvisée du bétail à Bamako, Kati et Koulikoro. La mesure prise par le gouverneur des 2 régions intervient quelques jours avant la fête de Tabaski. Elle suscite des réactions diverses parmi les vendeurs et les clients.
Un mot de sport avant de boucler ce journal. En football, le stade malien de Bamako a remporté la 64e édition de la Coupe du Mali en battant le Djoliba AC sur le score de 1-0. La finale s'est jouée le samedi au stade du 26 mars de Bamako. En play-off du championnat national de basketball, l'équipe féminine du stade malien a été sacrée championne. Chez les hommes, le suspense reste entier. Le point avec Oumar Waïgalo.
Le défenseur du stade malien de Bamako, Mary Camara, a inscrit l'unique but de la finale de la Coupe du Mali à la 72e minute. Grâce à cette réalisation, les Blancs de Bamako remportent la 64e édition de la Coupe du Mali. Cette victoire leur permet de réaliser le doublé, ayant également remporté le championnat national de cette saison. Le championnat national de basketball se poursuit avec les play-offs. Lors de la troisième journée, le centre de référence de basketball de Tombouctou a remporté sa troisième victoire consécutive face au stade malien de Bamako, les champions en titre, sur le score de 71-53. Il ne reste plus qu'une seule victoire aux joueurs de Tombouctou pour décrocher leur premier titre de champion du Mali. En catégorie féminine, le stade malien de Bamako a été sacré champion du Mali après avoir remporté une troisième victoire consécutive face à leur rival du Djoliba AC sur le score de 71-68. Les playoffs se jouent au meilleur des 5 matchs, la première équipe à atteindre 3 victoires étant sacrée champion du Mali de basketball.
Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Auditeurs et auditrices, faites-nous parvenir vos plaintes, commentaires ou recommandations au 76 98 56 56. La couverture médiatique du changement climatique au Mali semble s'être affaiblie. C'est le sujet abordé aujourd'hui dans notre magazine Parlons de l'environnement, une réalisation de Mariam Koulibaly avec le concours de nos correspondants.
Le journal Le Sursaut, un hebdomadaire malien, est conscient de la gravité du problème. Cependant, le média ne traite que d'une dizaine de sujets sur le changement climatique par an. Son rédacteur en chef, Mustapha Diawara, soutient que les journalistes doivent en faire une lutte quotidienne.
Les financements, certes, mais dans le cadre du renforcement des capacités des acteurs des médias en vue de leur permettre de pouvoir présenter au grand public les enjeux du changement climatique. Parce que c'est un phénomène qui atteint l'humanité dans sa majorité. Ça engendre non seulement l'insécurité, ça engendre la sécheresse, ça engendre la sous-alimentation, ça peut même être la cause directe de l'immigration de certains jeunes. Dans ce cas, on n'a pas besoin de financement pour pouvoir traiter ces questions-là.
Dans la région de Sikasso, Abdramane Bamba est journaliste à la radio Sigida Nyeta. Il anime une émission sur les changements climatiques dans le but de sensibiliser sa communauté confrontée à la ruée vers l'or. Il donne ici quelques résultats obtenus grâce à ces émissions.
Dans les zones de l'orpaillage, les responsables des sites ont mis en place un comité de gestion pour reboucher les trous après les travaux. Les menuisiers aujourd'hui, et ils collaborent avec les services des eaux et forêts, ils obtiennent les autorisations de coupe. On collabore toujours avec la population, les commissions foncières, COFO, les eaux et forêts.
Le journal Vert du Mali est le seul programme médiatique spécialisé dans le traitement de sujets liés au changement climatique. Bien que son directeur de publication parvienne à maintenir l'entreprise à flot sans soutien financier, Adama Samou Sissoko souligne que ce métier comporte des risques.
Les médias n'ont pas les ressources financières qu'il faut sur la base des données collectées sur le terrain où des confrères ont souligné le fait qu'il y a une rétention d'informations de la part des structures. Beaucoup ne sont pas familiers au concept usuel. Il y a la question sécuritaire. Lorsque l'information est sensible jusqu'à un certain niveau, ça peut donner lieu à des pressions.
Ces risques pourraient être réduits si les journalistes bénéficiaient de formations et d'un accompagnement, comme le suggère l'environnementaliste Issa Bamba.
Ils doivent s'ériger, se former en journalisme environnementaliste, inciter les gouvernements à adopter des politiques par rapport à la lutte contre le changement climatique. Ils doivent donner la parole aux populations victimes, aux experts sur la question, de se prononcer, d'échanger et de trouver des solutions, de les vulgariser et de les pérenniser.
Malgré les formations offertes par diverses ONG locales et internationales, peu de résultats concrets sont observés par la suite. Selon Ahmed Sekou Diallo, directeur exécutif de l'ONG AFAD, la lutte contre le changement climatique va au-delà des considérations financières.
Nous ne nous arrêtons pas à les former. Des fois, nous organisons des prix, des concours pour le meilleur article de presse. On forme aussi des journalistes d'investigation. Souvent, on n'a pas les moyens de les accompagner comme il se peut. Le contexte est difficile. Les partenaires se retirent. Ça peut faire qu'ils manquent de motivation. Mais ils doivent comprendre aussi que leur rôle dans la société, c'est un rôle d'éducation.
Les journalistes jouent un rôle essentiel en faisant le lien entre la communauté et les acteurs climatiques. Grâce à leur production dans les différentes langues locales qui ont permis d'obtenir des résultats tangibles. Cependant, ces efforts risquent d'être vains si les médias baissent les bras.